Du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France. Cinquième volet, nos aïeux ont toujours raison, mais nous pouvons penser qu'ils ont tort. Réfugiés après la défaite des Américains au Vietnam en 1975, environ 30 000 Laotiens d'origine vivent actuellement en France. Ils ont dû s'adapter à la société française, passer d'une culture bouddhiste et animiste à un matérialisme teinté de christianisme. Même si la vie en communauté de toutes les générations d'une même famille ne se pratique plus comme au pays, les femmes laotiennes qui vivent en France ont transmis à leurs enfants le respect qui est dû aux anciens dans la société traditionnelle laotienne. Et parfois, même les esprits des morts trouvent encore une place de choix dans le cœur de leurs descendants. Une place parmi d'autres, dans des modes de vie où les éléments s'agencent comme les pièces d'un puzzle, et où la question d'un retour définitif s'efface peu à peu.
On est quand même beaucoup en famille, on se retrouve beaucoup autour de la famille, le week-end, ce qui se fait peut-être moins en France aussi.
Vivienne et Sylvie, fille de parents laotiens.
Je pense que il y a un rôle important où la famille intervient aussi dans les décisions qu'on prend par la suite pour notre avenir. On discute un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on a aussi gardé?
Le respect de nos aïeux.
Ouais.
On respecte beaucoup nos aïeux. On ne peut pas se permettre de dire des choses que d'autres diraient à leur grand-père ou à leur grand-mère ou leur arrière-grand-père.
Par exemple
Si un aïeul nous dit quelque chose, on n'a pas le droit à la parole. Ça veut dire on respecte ce qu'il dit, on se tait, même si on n'est pas d'accord avec ses opinions. Et
est-ce que vous faites ce qu'on vous dit de faire?
On prend en compte.
On prend en compte ce que... Comme elle dit, on soumet ce que l'on veut faire à nos parents et à nos aïeux, si ça les concerne, et c'est une discussion. Comme par exemple le fait que ma sœur veut partir en Afrique, pendant 6 mois on en parle, on a peut-être pris notre décision nous, mais on écoute quand même ce que disent nos parents, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, et on argumente chacun de leur côté et il y a une décision finale, mais cette décision finale elle nous appartient pas tout à fait à nous, elle appartient aussi à nos parents et à nos aïeux surtout.
Sous des apparences extrêmement effacées, timides, etc., qui sont vraiment les canons de la vertu féminine.
Catherine Chorombé, anthropologue au laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS.
Les femmes, en réalité, sont pas du tout dominées. Enfin, pas du tout. Elles ont un réel pouvoir, mais qui est essentiellement économique. Et donc, elles ont un pouvoir domestique qui n'est pas tellement visible, mais qui est réel. Et puis, elles ont quand même, effectivement, l'éducation des enfants et qui leur donne aussi un réel pouvoir, et donc un pouvoir en particulier de transmission des valeurs, quoi. Alors, du coup, là, il y a sûrement un conflit de génération qui joue, parce que, du coup, elles, en particulier par rapport à, à l'éducation de leurs filles, elles essayent de leur transmettre des valeurs, éventuellement de leur imposer un mariage, etc., conforme à ce qu'elles pensent être bien pour elles. Et en réalité, là, évidemment, elles se heurtent à d'autres souhaits chez leurs filles, quoi. Donc ça, c'est pour les jeunes filles laotiennes, c'est difficile à accepter, quoi. Même cette image de femme effacée, etc., elles ont beaucoup de mal à l'accepter. Mmh. Donc là, il y a un conflit de génération assez fort, quoi.
Justement, sur la transmission des valeurs, comment ça se passe par rapport à la première génération de femmes qui sont arrivées, donc qui sont mères souvent maintenant d'adolescentes ou même de jeunes femmes qui elles-mêmes commencent à avoir des enfants.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elles ont transmis à leurs enfants? Est-ce que la pratique du bouddhisme est quelque chose qui est resté? La langue qu'est-ce que...
C'est difficile à dire de façon... Parce qu'évidemment, il y a toujours des exceptions et... Mais je pense quand même que globalement, et c'est encore plus sensible aux États-Unis qu'en France, je crois, globalement, ce qui se transmet est très appauvri, quoi. Ce qui se transmet du patrimoine culturel est très appauvri. Il y a des choses qui restent. Je pense qu'il y a une façon d'être à l'intérieur de la famille ou de la communauté, des manières de se comporter les uns par rapport aux autres, etc., qui se sont transmis chez les jeunes femmes, on va dire, de la deuxième génération, et donc qu'elles passent à leurs enfants, mais d'une manière très, très atténuée, parce que tout ça est très contrecarré, évidemment, par la scolarisation et par... le bain que représente évidemment la société française pour leurs enfants. Donc je crois qu'évidemment, plus on s'éloigne de la première génération, plus les choses s'appauvrissent. Mais en même temps, il peut y avoir des effets de retour, si vous voulez, des effets boomerang, chez certains jeunes ou chez certaines jeunes femmes en particulier, qui justement ont adopté des comportements beaucoup plus européens, beaucoup plus occidentaux, face à des difficultés de la vie ou l'âpreté du travail, etc., ont envie de revenir à certaines des valeurs traditionnelles. Et donc là, il y a tout un réapprentissage à faire qui est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'elles essayent de revenir, quand c'est pas trop tard, à ce que pouvaient leur dire leur mère et leur grand-mère. Bon. Mais quelquefois, c'est trop tard. Mmh. Enfin, il y a ce double mouvement-là, quoi. Je pense que, bon, il y a un effet d'usure, quoi, des valeurs et des habitus qui est réel et qui est rapide. Parce que, je vous dis, la scolarisation, les médias, la consommation de masse, tout ça, ils sont dedans, hein.
Est-ce que c'est vous, madame, qui leur avez transmis à vos enfants, notamment à Gisèle?
En effet, oui.
Madame Nine.
À tous les enfants, ceux qui veulent savoir, qui veulent comprendre pourquoi je fais des prières matin, le soir. C'est pour le bien-être de chacun. Si chacun peut apprendre à réciter, ce sera encore mieux pour leur propre intérêt. Mm-hmm. Vous serez mieux dans votre corps, dans votre tête, que derrière la prière.
Ça, c'est quelque chose de très important, j'ai l'impression, au Laos.
Très important.
Ce temps où on donne, où on accepte de...
Et on accepte de pratiquer et de suivre les conseils. C'est ce que j'ai donné, toujours des conseils. C'est ceux qui veulent écouter, je les donne. Ceux qui ne veulent pas le savoir, je les laisse tomber. Jusqu'au jour où ils se sont rendus, quand ils ont des problèmes de cœur ou des problèmes de voisinage, ils viennent demander conseil. Alors, il suffit de joindre les mains et demander les chemins à suivre. Et du coup, ils se sont aperçus qu'il y a quelque chose qui est clair en eux, à prendre le chemin qu'il faut prendre. Alors là, ils ont dit, mais oui, il faut faire comme maman. C'est ainsi que les petits, les plus petits, les, même les, certaines personnes qui sont catholiques, ils ont vu ça, ils sont revenus vers nous pour prendre, suivre l'exemple. Alors, c'est ainsi que j'ai élevé mes enfants. Mm-hmm. Et ça dépend de la mère au foyer, comment ils élèvent le gosse, comment ils les éduquent. Parce que l'instruction, c'est l'instruction, mais ce n'est pas l'éducation ni les chemins à suivre. Le problème de cœur, c'est une histoire de cerveau. Si vous avez la tête qui ne suit que l'évolution moderne du pays, alors vous laissez tomber la famille. Et c'est quelques mois après, on s'aperçoit que la famille est plus chère que de suivre le chemin des autres. Et ça, c'est comme ça qu'ils reviennent petit à petit. Ils ont compris que la famille est beaucoup plus solide avant de s'adapter avec les voisins ou les amis à côté. Si on n'est pas solide, on ne peut pas sortir de la maison sans rien. Et c'est comme ça qu'ils se sont aperçus que, même très âgés, ils ont compris que la méthode de grand-mère est toujours très, comment on dit, très...
Tu es la meilleure. C'est encore actualité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, du lien entre les générations?
Bien, écoutez, je regrette un petit peu qu'on ne puisse pas se permettre, Gisèle, en France, ou même dans n'importe quel pays occidental, d'avoir nos parents, nos anciens avec nous. Parce que d'abord, il y a un lien qui se crée, qui est totalement différent entre les générations. Et si j'ai gardé, moi, un lien très très fort avec ma mère, c'est parce que je pense que je suis encore très marquée par les liens que j'avais avec ma grand-mère paternelle, avec qui je vivais souvent. Et je regrette un peu de ne pas avoir... les moyens d'avoir une grande maison où on pourrait mettre grands-parents, enfants, petits-enfants ensemble et que tout ce petit monde la vive ensemble. En France, cela se faisait également avant. Et puis maintenant, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne peux faire autre chose, comme je suppose beaucoup de gens, comme beaucoup de gens comme moi, avoir le plus souvent possible ses parents ou son parent près de soi. Le plus souvent possible, parce que quand on me dit « mais pourquoi tu t'en occupes tant ?» J'ai tant que je m'en occupe, c'est pas s'en occuper, c'est être ensemble, parce que... Et puis même si on parle de s'occuper, je le dis haut et fort et je n'en ai pas honte, je dis « mais je préfère m'occuper d'elle maintenant, plutôt que d'attendre d'aller une fois par an avec un bouquet de fleurs, aller pleurer ». Sur une tombe ou sur un n'importe quoi, ou sur une date, parce que c'est la date anniversaire de la mort. Donc, occupons-nous des gens vivants, surtout de nos anciens.
Par rapport à votre petit-fils que j'ai vu là tout à l'heure.
Oui.
Donc, c'est le fils de votre fils.
Oui.
Est-ce que... Alors, comment il s'appelle? Est-ce qu'il a une histoire avec le Laos, en fait?
Oui, alors, c'est le fils de mon dernier fils, parce que j'en ai 5 en tout de fils, et une fille, tout de même. Hein. Oui, il y a une histoire, parce que quand Jean-Michel a su qu'il allait être papa, et surtout quand il a su que ça serait un garçon... Il voulait un prénom original, comme tous les parents, toujours un prénom original. Il est allé sur Internet, il a regardé le Laos. Pourquoi le Laos? Bon, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été le Laos, comme par hasard. Et il est tombé sur un village au nord du Laos, dans la plaine des Jars, si je ne m'abuse. Et il a vu marqué Nalan, un village qui s'appelait Nalan. Il a trouvé ça très joli, et c'est comme ça que Nalan s'appelle Nalan.
Pour vous, c'est important que, qu'il apprenne qu'est-ce que c'est le bouddhisme, ou à parler là-haut, ou des choses comme ça?
Je pense, pour moi personnellement, je pense que c'est assez important, pour la bonne raison que si on n'en parle pas, la langue laotienne va disparaître. Et si je ne les oblige pas un peu, les uns et les autres vont tout oublier. Et puis un jour, comment ils vont faire pour retourner au pays et réclamer, demander s'il y a encore des origines qui s'y sont restées au pays.
En pratique, mais c'est pas pour ça que...
Viviane et Sylvie.
Y en a qui pensent plus, et après, en fait, la spiritualité, c'est chacun, c'est pour chacun. Mais c'est pas pour
c'est
ça que...
Chacun
voilà.
sa façon de pratiquer,
voilà.
en fait.
C'est ça, chacun sa façon de voir et de percevoir pourquoi on fait ça. Et c'est vrai que, bon, aller à l'hôtel, par exemple, pour ma sœur, c'est un peu maman qui a dit, il faut un hôtel pour... Mais c'est vrai que d'elle-même... Par contre, c'est
dans mon voilà. appartement, ça c'est sûr. Ouais. Après, de moi-même l'organiser, c'est pas voilà. tout à fait ma.
Tandis que moi, je l'ai fait la demande. J'ai fait une demande de moi-même. Je veux. Bon, ça, moi, je l'ai pas demandé à ma maman. Je l'ai demandé à ma grand-mère.
Pourquoi vous pouvez pas fabriquer votre hôtel toute seule et mettre votre petit Bouddha que vous
Parce
avez
Parce que premièrement, les femmes n'ont pas le droit de toucher les statuettes de Bouddha. On n'a pas le droit. Les bonzes, on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de les toucher. On doit se mettre toujours accroupi devant eux. Et
après, il y a une cérémonie de bénédiction un petit peu faite par le bonze qui est invité, qui vient à la maison, qui fait une prière, qui met un peu de l'eau bénite un peu partout, qui essaie de nous dire un petit peu où est-ce qu'il faudrait que l'hôtel soit dans la maison, ce qu'il faut... Parce que par rapport à l'orientation du soleil, par rapport à pas mal de choses auxquelles on n'y réfléchit pas du tout. Après, toute l'organisation pour qu'ils viennent, pour que faut quand même des gens qui seront habitués. Et c'est vrai que nous, on ne fait pas ça souvent, quoi. Donc, pour mon appartement, parce que moi, j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, ma mère a fait même l'appartement d'avant, j'avais loué. Donc, elle a quand même organisé quelque chose. C'est ma mère qui a appelé. C'est ma soeur qui a fait le repas. Donc on a fait tout un truc, voilà quoi. Moi j'ai acheté les fleurs et j'ai essayé de faire un ménage. Voilà. Après le reste c'est surtout, c'est quand même transmis, je dirais, de parents à enfants. Donc tant qu'ils sont, ils peuvent le faire, ils le font, et nous on le fera à nos enfants. Je pense que c'est comme ça aussi.
On l'apprend au fur et à mesure. Par exemple moi quand je me suis mariée, on a fait les rites laotiens. Mon mari et moi, on a su ce qu'il fallait faire à la dernière minute. C'était pas organisé depuis un mois, il faudra que tu fasses ça, 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 ça. C'est à la dernière minute, on est entouré. Moi, j'étais entourée de personnes, de mamie. Et c'est elle qui t'explique les gestes un petit peu à faire par rapport à ton mari. Et du côté de mon mari, c'était pareil. On était au courant de rien, donc c'est on appelle ça improvisé, mais après à la fois c'est une transmission qu'ils nous font. Et c'est vrai que bon, moi je l'ai pris en plus. C'est ce que je voulais. Mais c'est vrai que bon, par exemple peut-être ma sœur, elle voudrait pas une cérémonie aussi longue, compliquée, puisqu'on était obligé de s'asseoir. aussi traditionnelle. Et c'est vrai que bon, même mes amis là aussi, ils ne voudront pas forcément avoir ça. Mais c'est vrai que on l'apprend surtout au fur et à mesure. C'est pas calculé. Voilà, la culture laotienne, c'est ça. C'est pas calculé. C'est quelque chose qui vient au moment même. On n'a pas d'idée bien précise de ce qu'on va faire, mais au fur et à mesure, on voit quelque chose. Ah tiens, et si on faisait ça en plus? Voilà. Et c'est totalement la mentalité laotienne. C'est voilà, on fait les choses avec ce qu'on a, et si on peut avoir plus, eh ben tant mieux. Si on peut pas avoir plus, ben tant pis. C'est pas grave, bon peignant.
Qu'on côtoie ma famille, donc on continue à garder cette culture.
Élodie.
Mais bon, du fait que j'aille à l'école, que je côtoie mon ami qui est français, donc du coup, au fur et à mesure, je perds. Voilà. Donc en fait, oui, je disais qu'il y avait une transmission de la culture, de la langue, mais après, c'est au niveau du savoir-faire. Voilà. Par exemple, là, pour la fête... on ne sait pas ce qu'on doit préparer. Ils nous disent, là, quand ils ont fait le tour, qu'il fallait faire les offrandes, on sait ce qu'on doit faire, mais le matin, on ne sait pas ce qu'il faut préparer, s'il y a quelque chose à préparer surtout, voilà. Ma mère, elle fait tout, donc on n'a rien à faire après.
Il n'y a plus rien.
Ouais, ouais, ouais. Sinon, oui, avec mes grands-parents, ils gardent... Bon, on discute dans leur langue maternelle. On fait un mélange français là aussi. Hein. Mais ils comprennent, vu qu'ils se sont intégrés aussi.
Alors par exemple, est-ce que chez vous il y a un hôtel pour honorer les ancêtres? Est-ce qu'il y a...
Non.
Est-ce que vous avez des choses comme ça?
Non, pas du tout. Mais chez mes parents, oui. Oui, oui. Voilà. Donc,
vous n'allez pas prolonger ça?
Je sais pas. Pour l'instant, bon, il y a des petits bouddhas à la maison. Voilà, parce que ça nous plaît. Mais prolonger, faire un hôtel, brûler un bâton d'encens, ça, je ne sais pas. Pour l'instant, non, c'est pas.
Vous avez une croyance, une religion, vous êtes bouddhiste, vous êtes athée, vous êtes.
Moi, je suis plutôt athée. Ouais, voilà. Je participe aux fêtes religieuses, ça me plaît, parce que c'est la culture de mes parents. Mais c'est vrai que moi, dans la pratique de tous les jours, non.
Et vous alors?
Moi, je suis le petit copain et voilà, je m'intègre.
Oui, parce que là, on est dans une fête familiale où il y a quand même, je sais pas, peut-être 80 personnes. Et il n'y a pas énormément de blancs.
Oui, ouais, je me sens bien. Je suis tout intégré. Je veux dire, ma belle famille m'a bien accepté. Et moi, j'ai fait les choses dans les règles. On s'est fiancés en premier, puis après elle est venue vivre avec moi. Je veux dire, ça va être un mariage mixte. Je veux dire, il y aura pas de. Je pense que ça sera comme ça. On n'a pas encore bien discuté, mais je pense que ce sera comme ça. Ça sera mi-bouddhiste et mi-catholique.
Vous êtes catholique?
Oui.
Pratiquant?
Non. Mes parents, c'est pareil. C'est la même chose. Du côté de ma famille, ma grand-mère, ma mère, tout ça, c'est un peu pratiquant. Mais moi, je suis plus athée, en fait. Pas de mes croyances, mais de par mes actes, en fait. De par comme on vit comme des athées, on pratique aucune religion. Mais bon, après, ça n'empêche pas d'avoir des croyances, quoi.
On peut se convertir au bouddhisme?
Non, je ne pense pas, non.
Non.
C'est ça, c'est une religion tellement souple qu'on peut même
oui.
Se convertir.
Oui, c'est vrai, ouais.
Ouais. C'est une façon de penser, en fait.
J'aime leur philosophie, voilà. Et c'est pour ça que toutes les fêtes religieuses, eh ben, je suis ici, quoi. Je suis plus ici qu'à l'église.
Et vous, par exemple, vous avez jamais eu envie de vous marier avec un Laotien ou je sais
pas. Non, je n'ai pas l'intention, ni un Chinois. C'était comme ça, je voulais pas marier avec un Chinois, non.
Et votre famille
Non, ça les dérange pas. Oui. adolescente. Mais déjà, en fait, ma sœur, bon, elle est un peu plus jeune, mais elle sortait déjà avec un Français, entre guillemets. Donc, puis ma tante, elle s'est mariée avec un Français aussi. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, bon, on vit dans la culture française, donc c'est obligé d'accepter. Hein. Voilà.
Après, bon, ça m'est arrivé aussi de prier. Enfin, de mettre à genoux avec tout le monde et devant les bonzes et après faire les offrandes. Des fois, ils viennent carrément à la maison de la maman Élodie. Oui, ça m'est arrivé. Quand on s'est fiancés, on a fait toute la cérémonie qui allait avec. Donc les bracelets, le grand-père nous a attaché les bracelets, il nous a bénis, tout ça. Il nous a donné son consentement. Donc voilà, c'est bon, on est bénis. On peut y aller.
Se rendaient au marché, montés sur leur âne. Un passant les accusa d'épuiser la pauvre bête, et ils décidèrent donc de marcher. Mais un autre passant surgit et trouva ridicule que la bête ne serve à rien. Ne sachant plus que faire, l'homme et son fils se mirent à porter l'animal, ce qui bien sûr leur valut les quolibets du passant suivant. Furieux, l'homme finit par rentrer chez lui en disant à son fils que dans la vie, il faut toujours faire comme on l'entend, puisque de toute façon, il se trouvera toujours quelqu'un pour vous dire que vous faites tout de travers. C'était « Nos aïeux ont toujours raison, mais nous pouvons penser qu'ils ont tort ». Cinquième volet de la série documentaire en 6 épisodes, « Du Mékong à la Méditerranée, des femmes laotiennes dans le sud-est de la France ». Un projet de Marine Richard soutenu par le dispositif « Identité, parcours et mémoire ». Mixage et astuces sonores, Tony Regnault et Sébastien Gély. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.grenouille888.org.